When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
L'internet est en panne, merde.
Encore des grossièretés.
Voilà, je suis désolé.
Toujours.
Ouais, je sais que t'aimes pas ça.
Là là là.
Je sais que t'aimes pas ça.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine prend son fusil et sa chapka pour affronter les rudes températures de l'Amérique profonde, ses indiens féroces et ses ours assoiffés de vengeance et ainsi suivre à la trace Alejandro González Iñárritu et son Revenant, l'un des événements ciné de ce début d'année qui nous donnera par ailleurs l'occasion de revisiter quelque peu la filmographie du réalisateur mexicain qui signe sans doute là l'un de ses plus beaux films. Et pour en causer autour de la table ici autant que de trappeurs aguerris s'il en est, Julien Dupuis, salut Julien.
Bonjour.
Et Yannick Daran, salut Yannick.
Salut.
C'est Nos Ciné, épisode 41, et c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
The Revenant, c'est donc le dernier film d'Alejandro González Iñárritu qui nous raconte l'histoire vraie du trappeur Hugh Glass, incarné par Leonardo DiCaprio, embarqué dans une expédition qui tourne mal puisque lui et ses camarades vont se colter sévèrement avec une tribu amérindienne. Déjà, ça ne se passe pas très bien, mais pour Glass, ça en pire lorsqu'il croise la route d'une maman ours particulièrement remontée qui va lui coller une misère de tous les diables, à tel point que ses gentils compagnons de route, motivés par le causant Tom Hardy, vont décider de le laisser pour mort en zigouillant au passage son fiston, ce qui va lui donner une légère envie de vengeance. Alors je ne spoil rien puisque tout ça c'est dans les bandes annonces. On ajoutera par ailleurs que la photo sublime est signée Emmanuel Lubezki et que DiCaprio tient peut-être là son premier ticket gagnant pour l'Oscar. On ne sait pas puisqu'à l'heure où nous enregistrons cette émission, la cérémonie n'a pas encore eu lieu. Nos deux camarades autour de la table ont vu The Revenant, mais qu'en avez-vous pensé, Julien ?
Moi j'aime beaucoup. Ça fait partie de ces films où de temps en temps tu as l'impression de voir de l'inédit, de voir des choses que tu n'as jamais pu observer avant au cinéma, et où tu as un vrai mystère, c'est-à-dire que de temps en temps tu dis mais comment la caméra a pu se retrouver ici, comment ils ont pu filmer et capter une séquence pareille, et c'est assez rare finalement au cinéma. Puis je trouve aussi que c'est un film qui regarde vers l'avenir.
Oui.
Moi je trouve que ça m'a fait beaucoup penser à la réalité virtuelle en fait. Il y a presque un côté 360 degrés là-dedans avec des focales extrêmement courtes tout le temps qui implique le spectateur vraiment dans l'action au plus près des personnages. Une impression que le territoire filmé est totalement débarrassé de toute technique.
Ouais.
Voilà, qui implique énormément.
Yannick.
Ouais, c'est juste ce que dit Julien. Je l'aurais pas dit comme ça, mais c'est vrai que le côté réalité virtuelle, voilà, l'immersion qu'elle présuppose, c'est quelque chose qui est carrément bluffant dans le film, quoi. C'est-à-dire, enfin, moi, il y a deux choses. Après, on va parler du film en détail, mais au niveau du ressenti, c'est exactement ça. C'est tu as l'impression de voir quelque chose d'inédit, d'avoir une expérience sensitive comme t'en as rarement des films comme ça. Enfin, je veux dire, on a du Gravity il y a quelques années, on a des œuvres comme Mad Max. Bon, là, on a la chance parce qu'en 3-4 ans, on a eu trois films comme ça, mais en règle générale, c'est super rare. Quelque chose que t'as pas du tout au départ même envie d'intellectualiser, tu te le prends comme une grosse claque dans la gueule. Moi, j'ai été, alors là, tu parlais des ours, tout ça qu'on voit dans la bande annonce, il faut bien préciser aux gens que c'est les 35-40 premières minutes du film. Après, ça vient un peu plus Terrence Malick, si tu veux, c'est beaucoup plus contemplatif et beaucoup plus lent, mais les 40 premières minutes sont, elles te scotchent et tu vas d'hallucination en hallucination, d'abord parce que tu vois dans l'image la scène de l'ours, elle est stupéfiante, la première fight, elle est stupéfiante, et puis même cette capacité que t'as d'être à la fois bluffé par ce qu'on te raconte et à la fois bluffé par les mouvements de caméra en même temps, parce que tu vois des trucs de malade, tu te dis mais comment cette caméra peut partir d'un mec, monter sur un cheval, redescendre d'un truc, et tu sans voir rien, tu dis comment ils ont fait un truc pareil. Donc ça, c'est complètement bluffant. Moi, je rajouterais un truc par rapport à ce que dit Julien sur la courte focale qui est effectivement impressionnante parce que c'est 99% du film. Outre le fait qu'elle te plonge dans l'action, que t'es dans, ça crée un rapport d'échelle par rapport à la nature, c'est le cœur du récit. Hein.
Oui.
Je veux dire, on est dans un survival. Il faut être très clair, le récit, il n'est pas d'une complexité affolante et thématiquement, il ne réinvente pas la roue. Hein. C'est les thèmes qu'on a dans tout ce type de survival, la nature, l'être humain, la condition humaine, tout ça, blablabla. Sauf que ce rapport d'échelle-là produit par la courte focale où tu es souvent au plus près des hommes, dans cette espèce d'immensité, ça accentue l'effet, ça rend thématiquement le film, j'ai envie de te dire, ça rend thématiquement le film viscéralement compréhensible. C'est-à-dire que les thèmes philosophiques qu'ils abordent, tu les ressens sensitivement avant de les ressentir intellectuellement. Ça, c'est l'énorme force du film. On parlera après, moi, des nuances que je vais y mettre, mais les nuances viennent du fait que, justement, ça suffisait. C'est-à-dire que pour moi, Iñárritu, il réussit. Il aurait pu faire un Mad Max-like, c'est-à-dire il aurait pu faire un film muet où tout son sens était condensé dans sa mise en scène. Comme c'est Iñárritu et pas Georges Millard, il peut pas s'empêcher de rajouter une couche de « regardez comme c'est intelligent ce que je vous raconte » et forcément, il ne peut pas s'empêcher de rajouter des trucs lourdingues derrière dont on aurait pu se passer. Mais purement en termes de ressenti, moi j'ai pris quand même une grosse claque dans la gueule.
C'est vrai qu'il y a un problème un peu dramaturgique. Alors je ne sais pas tant si c'est une façon de paraphraser ce qui a déjà été dit ou transmis viscéralement, mais le film démarre tellement fort, forcément ça baisse un petit peu. Enfin pas forcément, c'était pas une fatalité, quoi. Mais c'est vrai qu'on sent une baisse, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas la puissance de la première heure plus tard dans le film. Je pense qu'il n'est pas parvenu à dépasser en fait ça, à aller au-delà de ça.
Oui.
Et le film aspire à ça. Hein. C'est vrai qu'il y a ce côté contemplatif et beaucoup plus introspectif puisqu'on part de quelque chose d'extrêmement viscéral pour aller au-delà et de savoir comment ces personnages peuvent se réaliser au-delà de l'expérience physique qu'ils subissent. Et c'est vrai que le film ne parvient pas, à supplanter tout ça. Quoi. Mais bon, il n'empêche que le résultat est là. Et sur le rapport d'échelle, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que c'est littéral des fois. C'est-à-dire qu'il y a des plans où on a l'impression, par exemple, de voir toute une forêt. En fait, on est au plus près des racines. Ouais, il y a un plan, notamment là-dessus, qui est troublant. C'est-à-dire que tout à coup, on voit un pied qui arrive et on se dit « Ah non, mais c'est pas du tout ce que je pensais
c'est le plan,
voir. »
Le plan d'intro du... Enfin, pas le plan d'intro, mais c'est tout début du film. Et ça, c'est une façon de poser l'univers.
Exactement.
Et tu te dis, je suis dans une forêt de séquoias géants. En fait, le mec, il rentre. Et oui, mais ce qui est intéressant dans cette séquence-là, je me permets de rebondir ce que dit Julien, c'est que ce qui est intéressant, c'est que le rapport d'échelle est inversé tout le reste du film. C'est-à-dire que là, t'arrives et t'as des hommes énormes qui viennent quelque part contaminer cette nature en la chassant et tout ça, et qui, dès qu'ils vont se faire attaquer par les Indiens, bam, on passe à des contre-plongées directes et on redevient tout petit par rapport à l'immensité. Ça, c'est assez bluffant. Vas-y.
Non, juste, peut-être aussi l'autre bémol, mais qui n'est pas très préjudiciable, moi, je trouve, au film, c'est que ça reste quand même un film de suiveur, ce qui est assez paradoxal par rapport à ce qu'on a dit auparavant sur le fait qu'il te propose des sensations et des images que tu n'as jamais vues auparavant. Mais c'est un film où tu sens que il a discuté avec Cuarón et qu'il est au courant de ce qu'il fait, et que le travail que fait Emmanuel Lubezki, il est là. Il a repris une partie de l'équipe de Terrence Malick. Donc on sent aussi l'influence et l'impact de Terrence Malick. Et ça aussi, c'est peut-être plus dans une petite limite du film, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas un grand film inventeur de forme, autant qu'on aurait pu le croire en fait en voyant ça. Si...
Ce qui était déjà fondamentalement le cas de Berman. On l'avait dit à l'époque, on avait dit c'est Gravity dans un théâtre. Donc c'est clair que l'inventeur, c'est Cuarón. Ce n'est pas Iñárritu qui... bénéficie probablement d'un respect plus important parce qu'il a cette dimension arty, un peu poseur, qui est « je vais vous dire quelque chose sur la vie, j'ai un message à vous véhiculer », là où Cuarón se garderait bien de le faire et laisse son film parler pour lui. Là, on a un bonhomme qui ne peut pas s'empêcher de rajouter une couche de sens que je mets bien entre guillemets, parce que fondamentalement, quand tu questionnes le sens de The Revenant, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est relativement simple, comme si même thématiquement, il se tire une balle dans le pied. C'est là qu'est con. On a eu cette conversation avec Julien à la sortie du film, 2 secondes, moi je lui disais... Il y a quelque chose qui m'emmerde dans le final de The Revenant, que je trouve être finalement très moralisateur et très judéo-chrétien. Et il conclut, c'est un film qui se conclut par une forme de justice qu'on peut considérer immanente, qu'on peut considérer tout ce qu'on veut. Là où tu me disais, Julien, que le bonhomme était très agnostique, alors c'est vrai, et c'est ça qu'il y a, c'est qu'il y a une proposition, c'est-à-dire une velléité d'agnosticisme dans la réflexion que je fais, mais au final, je ne peux pas m'empêcher de me rassurer par le judéo-chrétien, ce qu'il y a dans la plupart des films de Iñárritu, et qu'il n'y a pas sur le seul film que je pourrais mettre en parallèle de celui-là, qui est donc Le Territoire des Loups, qui est un film beaucoup plus de genre frontal, sans autre prétention, et dont le sens, qui quand même, le film se conclut sur l'éternel recommencement du combat de l'être humain contre lui-même dans une nature où il va se faire fucker, grosso modo, qui est plus intemporel que lui, et cette fin a beaucoup plus de sens, au final, que la conclusion d'Iñárritu dans son film, où t'as envie de dire, tu me prépares à tout sauf à cette conclusion, donc pourquoi tu me l'as fait, si ce n'est pour me rajouter une espèce d'explication, qui plus est, explication qu'on retrouve dans des discours de Tom Hardy dans le film, dont on aurait pu largement se passer. Donc voilà, moi je veux dire, en même temps, que les choses soient claires, j'ai détesté Birdman, je ne suis pas un inconditionnel d'Iñárritu, je mets ce bémol-là parce que finalement c'est Iñárritu et je trouve que ça se voit, ça n'enlève rien quand même à l'impact que produit le film, hein, parce que c'est quand même un film qui est quand même impressionnant à regarder.
On le recommande donc quand même. The Revenant, c'est en ce moment au cinéma, vous l'avez compris. On continue tout de suite. Alors vous reconnaîtrez peut-être ces quelques notes tirées de la BO de 21 grammes, second long métrage d'Alejandro González Iñárritu, sorti il y a 13 ans maintenant. J'aurais aussi pu choisir un extrait de son superbe premier film, Amour Chienne, complètement culte, ou des suivants, Babel, Beautiful, sans oublier évidemment Birdman, on en parlait à l'instant, le fameux, celui qui lui a valu une avalanche de louanges et de prix, notamment une grosse poignée d'Oscars, 4 en tout, meilleur réalisateur, meilleur film, meilleur scénario original et meilleure photographie pour le redoutable Emmanuel Lubezki dont on parlait tout à l'heure. About to destroy what's left of your career. We should have done that reality show they offered us. Shut up. Avec cette grosse voix qu'on n'a pas oubliée. Bon, moi, j'avais pas été totalement renversé par le film à l'époque, comme Yannick. J'avais trouvé ça très emprunté, beaucoup trop dans l'esbrouf. Finalement, pas très sincère, mais ça arrive. La filmographie d'Iñárritu, qu'est-ce qu'on en pense autour de cette table? On a un petit peu commencé à le dire, Yannick.
Bah, qu'est-ce qu'on en pense? Oui, c'est un peu ce que je te dis. Moi, Iñárritu, ça a jamais été des chocs fondamentaux, mais ça n'a jamais été des chocs comparés à du Cuarón, à ses comparses, Cuarón ou Del Toro.
Ses copains, on peut le dire.
Ouais, ses copains, ils avaient formé le fameux Tequila Gang.
Parfait.
Et il faudrait d'ailleurs qu'un jour quelqu'un se décide de comparer, je pense, ces trois œuvres en parallèle, hein, parce qu'elles se nourrissent énormément et
profondément.
Voilà.
Oui, mais tu vois, enfin, je sais pas, on va se marrer, mais c'est comme quand t'as un groupe de trois potes, quoi, tu vois, t'as souvent le vrai artiste qui ouvre pas trop sa gueule, t'as le bourrin et puis t'as celui qui se la raconte. Le bourrin, pour moi, c'est un peu Del Toro. Le vrai génie, c'est Cuarón. Celui qui se la raconte, c'est Iñárritu. Bon,
je suis pas d'accord à 100%,
non, mais je caricature, mais évidemment, je caricature. Je caricature parce que c'est pas comme Bouin, évidemment, Del Toro, loin s'en faut. Mais oui, mais c'est celui qui en général te retourne la tête sans que tu l'aies venir. C'est quand même Cuarón qui réussit même sur un Harry Potter à te bluffer littéralement. Moi, j'ai jamais ressenti un sens du merveilleux autant que dans le Harry Potter.
C'est le meneur aussi artistiquement. Je pense sur plein d'aspects.
Et puis qu'il y a une exigence qui je pense est le mec qui est prêt à sacrifier probablement beaucoup plus que ses deux compars sur l'autel de l'objectif qu'il a. Bon, après, je suis pas dans leur tête, donc on va pas décider de ça.
Et donc Iñárritu.
Pour revenir à Iñárritu, moi, voilà, la pose arty m'a toujours... C'est particulièrement flagrant. Mais c'est assez symptomatique. Moi, je trouve ça finalement assez révélateur du monde dans lequel on est, où finalement, le film... je parle purement d'Iñárritu, mais déjà chez Iñárritu, le film qui est fondamentalement le plus bébête, le moins intelligent, le plus je te donne tout sur un plateau d'argent pré-mâché, tu n'as rien à réfléchir, tu répètes ce que je raconte, c'est celui qui est le plus célébré. Donc ça dit beaucoup de choses de ce monde dans lequel on est aujourd'hui. Après, ça n'empêche pas que j'aime beaucoup des Amour Chienne, plein de choses dans 21 grammes, mais il y a toujours ce côté, je me regarde, quoi. Donc voilà.
Sur certains aspects, moi, je trouve que Iñárritu, c'est peut-être le plus latin des trois, en fait. C'est-à-dire que je trouve toujours, c'est un grand sentimental, et c'est quelque chose qui me touche énormément dans tous ses films, y compris dans peut-être un de ses films les moins appréciés, qui est Beautiful.
Del Toro Romero est très latin quand même.
Aussi, mais je trouve que Iñárritu, il a vraiment, il y va à fond dans l'émotion là-dedans. Et c'est, je trouve que c'est ce qui le fait triper. C'est là où moi, il me rechoppe à chaque fois. Et c'est là où je suis prêt à lui pardonner beaucoup de choses. Et puis un autre truc aussi, c'est que je trouve qu'il y a un marronnier de la critique française aujourd'hui qui dit que Iñárritu, c'est un gars mégalo, très imbue de lui-même et tout, ce qui est probablement vrai. Sauf que je trouve que ça ne se sent pas vraiment en fait dans son œuvre. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve admirable chez ce gars-là, c'est qu'il a été dans ce trio-là reconnu très vite. Il est admis dans les festivals, récompensé. Hollywood l'a reçu à bras ouverts très très rapidement dès son deuxième film, donc avec 21 grammes. Et en même temps, il a osé remettre en jeu ses acquis, notamment avec Birdman. Et rien que pour ça, moi, c'est un film que j'admire énormément. Birdman, c'est-à-dire que il avait construit une carrière qui était très cohérente, notamment en s'illustrant dans le récit choral, et il a tout bazardé pour essayer justement d'aller à l'encontre de tout ça, y compris au niveau de la façon de concevoir les films. Et lui, il le disait, et ça, moi je trouve que ça se sent dans Birdman, c'est un film qui était sans filet sur plein d'aspects, c'est-à-dire que Iñárritu, c'était quelqu'un qui tournait énormément, qui se couvrait à mort, qui fabriquait ses films au montage, ça il s'en cachait pas, qui même dans Babel avait eu recours à d'énormes effets spéciaux numériques pour pallier justement à cette conception en post-production de ses films, pour justement ne plus avoir des problèmes de raccord ou des choses comme ça. Et il a osé remettre ses acquis en jeu pour se réinventer. Finalement, des auteurs reconnus comme ça, qui osent cette démarche-là, il n'y en a pas tant que ça. C'est la même chose d'ailleurs sur The Revenant. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on parle de The Revenant, c'est un des favoris aux Oscars. Peut-être qu'au moment où l'émission sera diffusée, il aura remporté beaucoup d'Oscars. C'est aussi un film qui aurait pu être un échec total. C'est-à-dire que c'est un film qui a coûté très cher, qui est une interdiction NC-17, un truc comme ça, aux États-Unis. Enfin, en tout cas, il y a une interdiction assez, assez radicale. Ça peut être un film qui brise une carrière. Et voilà, ça, c'est quelque chose que je trouve d'assez admirable et que je ne vois pas si fréquemment que ça dans les auteurs très reconnus, très installés comme ça.
Non, moi, je rebondis en disant, je suis complètement d'accord sur cet aspect-là, et je dis l'homme n'empêche pas l'autre. Fondamentalement, je suis le premier à reconnaître l'énorme prise de risque de la plupart de ces films, et je trouve que rien que pour la détermination à mener à bien un projet comme Revenant, ou même un projet comme Birdman, avec tout ce que ça peut impliquer, force le respect. Moi, j'ai toujours pensé qu'Iñárritu était plus qu'un technicien, mais en tout cas déjà de base, un metteur en scène brillantissime. Ça ne l'empêche pas de pouvoir dire des conneries derrière, ça ne l'empêche pas de pouvoir se la raconter. Là où je ne suis pas d'accord avec Julien, c'est sur l'aspect profondément sentimental. Pour moi, le sentimental, c'est Del Toro. L'émotion à fond, c'est Del Toro. Iñárritu, je la sens souvent. Alors ça, c'est qu'une question de perception. Hein. Toi, il te réembarque avec son émotion. Moi, en général, je la trouve fake et forcée à de nombreuses reprises. Mais à côté de ça, oui. Il ne serait pas là où il en est aujourd'hui s'il n'y avait pas une force de caractère hallucinante, une détermination hallucinante, une exigence aussi hallucinante. The Revenant te prouve bien qu'il faut pousser à bout tous les potards pour arriver à créer un truc comme ça. Donc sur ce niveau-là, je suis complètement d'accord. Moi, c'est totalement respect sur cette dimension.
Là aussi, je trouve qu'il a une démarche relativement humble et fructueuse. Hein, à l'inverse de... Attendez, laissez-moi finir. Par exemple, à l'inverse d'un Nicolas Winding-Refn, qui pour moi, lui, s'est fait complètement bouffer par son ego. Hein, par exemple, hein, pour citer, mais il y en a d'autres. C'est le premier qui me vient à l'esprit. Mais bon, c'est que il a quand même une approche assez collégiale en fait de la fabrication des films. Il ne s'oppose pas en tant qu'auteur démiurge. Et à ce titre, sa rencontre avec Emmanuel Lubezki, elle est déterminante dans sa filmographie. Il y aura un avant et un après cette rencontre-là. Et tu sens qu'ils fonctionnent de pair, ensemble, quoi. Et ce que lui apporte Lubezki, lui, il le prend, il l'embrasse et il essaye même d'assujettir sa mise en scène à la façon de travailler aussi de Lubezki. Ça, c'est quelque chose d'admirable et c'est surtout quelque chose qui nourrit vraiment son œuvre. Il ne faut pas oublier, encore une fois, Beautiful, il aurait pu rester là-dedans. Et tu sentais d'ailleurs dans Beautiful qu'il était dans une impasse. Et l'espèce de petite percée vers le cinéma fantastique qu'il y avait à la fin de Beautiful, c'était presque un cri de détresse.
Appel à l'aide.
Un appel à l'aide d'un auteur qui se retrouvait dans une impasse artistique. Hein. Donc, pour l'instant, je trouve que sa démarche et l'évolution de Iñárritu, je la trouve passionnante. Et surtout, j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve et ce qu'il va faire ensuite.
Bon, pour voir avant de voir
elle va dans le bon sens, ça fait.
Oui, non, mais ça c'est sûr.
Très bien. Avant de voir ce que va faire Inarritu ensemble, ensuite vous pouvez vous replonger dans ses précédents films qui sont assez faciles à trouver en DVD, Blu-ray et puis même en VOD. Pour terminer, on prend quelques minutes pour les habituelles recommandations de fin d'émission. Alors là, normalement, je fais une blague parce que Yannick a oublié. Comme toujours,
comme d'habitude. Non, mais là, celle-là, elle est facile. Je l'ai mentionné tout à l'heure. À la limite, je fais une recommandation s'il y a encore des gens sur cette planète qui n'ont pas vu Le Territoire des Loups de Carman. Je vais pas conseiller un autre Inarritu parce que fondamentalement, The Revenant est mon préféré. Donc je vais plutôt. Sur le même registre du survival, conseiller Le Territoire des Loups, qui est une perle réalisée par Joe Carnahan avec Liam Neeson, que je pense beaucoup de gens ont vu, et qui, vous allez voir, n'est peut-être pas aussi impressionnant en termes de réel que
pas le même budget. Non
voilà,
plus,
c'est pas le même budget que le Inarritu. Par contre, à une cohérence thématique profondément hallucinante. Moi, c'est un film qui m'a pris aux tripes, que j'adore, que je remate sans cesse. Donc, courez voir Le Territoire des
Loups. C'est un film habité. Ouais.
C'est vrai,
ouais.
Julien.
Moi, je vais rester sur The Revenant. Dans cette grande course aux Oscars, la Fox a mis en ligne, en accès libre sur leur site officiel et sur leur chaîne YouTube officielle, un documentaire de 45 minutes, je crois, qui s'appelle A World Unseen, sur le tournage de The Revenant. À ma connaissance, ça n'est pas sous-titré, hein, mais bon, on voit en tout cas, ça permet de percer le mystère en fait de la conception du film. Il y a énormément d'images de tournage, c'est émaillé d'une longue interview de Inarritu, qui, même s'il s'écoute parler, s'il s'aime beaucoup, reste toujours passionnant. Voilà, ça fait partie de ces films où les coulisses sont presque autant fascinante que le film lui-même.
Donc, allez, c'est fini pour aujourd'hui nos ciné. Merci à tous les deux, merci à Jules à la technique et autant que pour l'accueil. Dans une semaine, nouvel épisode qui sera cette fois consacré à Zoolander 2, parce que oui, on change de registre dans cette émission. D'ici là, comme toujours, nous vous invitons à aller fouiner sur le net pour écouter ou réécouter nos précédentes émissions au hasard sur Ave César, sur Anomalisa, sur Steve Jobs, sur Le Garçon et la Bête ou sur Les 8 Salopards. Quelle que soit votre plateforme préférée, c'est fastoche, on s'appelle Nos Ciné à chaque fois. Le plus simple, ceci dit, pour nous trouver, c'est nosciné.com, et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, on les lit tous et on répond la plupart du temps si vous n'êtes pas trop méchant. D'ici là, on vous dit à la semaine prochaine.
Rosebud. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizi. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à Herbert Léonard et à Gucci Mane. Disponible sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.